Bonjour, chers lycéens et lycéennes qui écoutaient Fréquence Mistral, chers auditeurs et auditrices qui ont encore une âme de lycéen. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Asie du Sud et de l'Est, et notamment des défis de la croissance économique et de la croissance démographique dans cette région du globe. En introduction, je vais d'abord fixer les limites géographiques de cet espace. Donc, nous appelons l'Asie du Sud et de l'Est la région du globe qui est comprise entre à l'ouest le Pakistan avec l'Afghanistan, au nord la Mongolie, la Chine, la Corée du Nord, jusqu'au nord du Japon. Au sud, eh bien, c'est bordé par l'Indonésie, au sud, et donc ne sont pas comprises dans cet espace l'Australie, et bien sûr la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, à l'exception notoire des Philippines. Donc nous avons aussi une diversité culturelle. Nous avons des mondes bouddhistes, des mondes hindouistes, des mondes aussi animistes. Nous avons l'islam qui est présent dans plusieurs pays comme le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, mais aussi la Chine. Le christianisme qui est aussi présent dans toute cette région, que ce soit au Pakistan ou en Inde, aux Philippines, en Corée du Sud. Nous avons aussi une diversité politique. C'est un espace en fait de plus en plus démocratique. En effet, nous avons des démocraties anciennes comme le Japon, l'Union indienne, mais plus nouvelles encore comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong qui se bat aussi en ce moment et depuis plusieurs années pour une démocratisation de son espace. Nous avons à côté de ces régimes démocratiques, libéraux, nous avons aussi des régimes en transition démocratique, comme par exemple le Pakistan, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Mongolie. Donc ce sont des pays qui sortent tous de régimes très autoritaires, dictatoriales, militaires ou non, et dont la population aspire de plus en plus à vivre dans des démocraties, ou en tout cas avec un certain nombre de critères démocratiques. À côté de ces pays, nous avons bien sûr deux dictatures d'une très sévère, donc la Chine populaire, donc Xi Jinping, et puis la Corée du Nord, bien connue pour avoir son dirigeant aux coupes de cheveux improbables. Bien, ces contextes jouent un rôle dans le gouvernement des populations et les décisions économiques, mais aussi démographiques, qui sont le trait de ce sujet. Donc je vais commencer par la croissance économique. Donc nous avons ici, dans cet espace, une croissance économique asiatique spectaculaire. Depuis 1990, la part de l'Asie sur la richesse économique mondiale est passée de 10% à 35%. Cet espace a connu ces 10 dernières années un taux de croissance économique supérieur à 7,5% par an, ce qui ferait pâlir n'importe quel dirigeant d'un pays occidental, qui eux doivent se contenter en fait, et nous devons nous contenter d'un taux de croissance d'1,2% par an. Alors cette divergence s'explique par des faits. Le premier, c'est que les pays riches ont tous construit leurs infrastructures. Nous pouvons râler de notre côté, nous voyons bien que nous avons des écoles, des routes, des autoroutes, des aéroports construits, des immeubles, des cités qui, même si on peut disserter longuement sur les poches de pauvreté montrent quand même que tout le monde a accès à l'eau, tout le monde a accès à l'électricité, tout le monde a accès à des soins, tout le monde a accès à l'école, et ce jusqu'au baccalauréat. Dans les pays émergents ou dans les pays en voie de développement, je rappelle que ce n'est pas le cas. Et donc, ces pays asiatiques ont tout à construire. Dans les années 70, seul le Japon appartenait à ce que je vais appeler aujourd'hui un club des pays riches et développés. Aujourd'hui, en 2020, l'on rejoint la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong et surtout la Chine populaire, l'Inde, mais aussi l'Indonésie sortent depuis 30 ans de la voie du développement pour aller vers le statut de pays riche et sont donc considérés comme des pays dits émergents. La Chine est donc devenue, selon le Fonds monétaire international, la deuxième puissance économique en richesse produite, et non pas partagée, mais je reviendrai sur cette question par la suite. L'Asie est donc le deuxième pôle commercial du monde, avec 31% du commerce mondial de marchandises, 26% de celui des services marchands, c'est-à-dire tout ce qu'il y a, Amazon, Alibaba et compagnie, c'est du service marchand. Les services bancaires sont des services marchands. Ce pôle de commerce mondial à 31% est juste derrière celui de l'Union européenne à 45% et devant l'Amérique du Nord à 15%. La Chine est donc devenue le premier exportateur de produits manufacturiers mondial devant l'Allemagne et le Japon. Attention cependant, mes chers élèves, la région asiatique connaît de fortes disparités de développement social à l'échec continental. Nous avons un premier groupe qui est le groupe des pays industrialisés et développés, c'est-à-dire qui vivent en fait et produisent en fait quasiment comme nous en Europe ou aux États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong appartiennent donc désormais aux pays riches, avec des sociétés qui globalement sont développées, dont l'instruction est élevée et l'appartenance à la classe moyenne certaine, avec des critères comme une espérance de vie, un taux de scolarisation très élevé. Le second groupe sont des pays émergents, dans lesquels on retrouve la Chine populaire, l'Union indienne, l'Indonésie, la Thaïlande, qui doivent être encore considérés donc comme des pays émergents, au même titre que la Turquie ou le Mexique, sous d'autres continents. En Chine, attention, le miracle des milliardaires que nous vendent régulièrement les journaux à grand tirage ne doivent pas nous faire oublier que sur 1,3 milliard d'habitants, seuls 200 millions ont une capacité d'achat et de vie d'un Européen comme nous le sommes aujourd'hui. En Inde, le fait que Mumbai soit la capitale économique de l'Inde ne doit pas faire oublier que sur cette cité de 15 millions d'habitants vivent 7 millions de personnes dans des bidonvilles. Ce qui est le cas, je le rappelle, de 25% de la population urbaine asiatique, soit 900 millions d'habitants. Le troisième groupe de pays sont les pays en voie de développement, comme le Vietnam ou les Philippines. Ils sont souvent liés aux pays émergents économiquement. Le quatrième groupe, c'est les pays les mal avancés, comme le Laos, le Cambodge, la Corée du Nord, le Bangladesh, la Malaisie. Ils ont un indice de développement humain très faible, avec une espérance de vie des plus faibles de la région. Une scolarité faible, notamment les filles, même si, pour ce qui est de l'école primaire, tous les pays asiatiques font de grands efforts de scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons au niveau primaire. Ils sont cependant, ces derniers pays, les pays mal avancés, vulnérables économiquement et ne doivent leur développement qu'aux émigrés qui partent travailler vers des pays plus développés, comme les Népalais en péninsule arabique ou aux délocalisations d'industries textiles, comme c'est le cas par exemple de l'industrie textile chinoise qui se délocalise au Bangladesh. Enfin, chers élèves, à l'intérieur de chaque pays, il peut y avoir des disparités de développement. Par exemple, en Chine, en fait, il y a deux Chines. Il y a une grande différence entre l'Est, le littoral et les régions des grands fleuves chinois, urbanisées, industrialisées, développées, et où se concentre à la fois la population et la croissance chinoise. Et enfin, à l'ouest, de la Chine, les régions du Xinjiang ou du Tibet, qui sont moins densément peuplées, moins ouvertes à la mondialisation, à l'exception notoire de certaines villes. Dans le cadre de la mondialisation économique et le développement, se fait donc dans les espaces urbains. Et ce sont les ports et les villes portuaires asiatiques qui en sont les moteurs. Les pays qui appartiennent aux pays riches et développés, aux pays émergents, aux pays en voie de développement, aux PMA, presque tous, une ouverture sur les mers et les océans, et c'est l'une des caractéristiques de la mondialisation et du développement économique des pays asiatiques et mondiaux par la même occasion. Donc, dans une deuxième partie, je vais parler des modalités de développement en Asie, c'est-à-dire comment est-ce que ces pays asiatiques se sont développés. Et nous allons voir d'abord celui du Japon. Je rappelle que le Japon s'est développé, et le pays, premier pays qui s'est développé à l'image des pays européens et nord-américains qui ont initié les révolutions industrielles au 18e, 19e siècle. Donc le Japon s'est industrialisé dès 1860, c'est-à-dire le début de l'ère Meiji en 1864. Donc le Japon est déjà une puissance. En 1945, s'il est ruiné, il redevient une puissance grâce à une relation très étroite entre l'État et les firmes nippones, sous couvert aussi de la défense américaine qui défend ardemment durant la période de guerre froide le Japon contre toute forme d'agression venant de l'extérieur et notamment des pays communistes que sont la Chine ou l'Union soviétique à l'époque. Le Japon ne pouvait plus être une puissance militaire de par sa constitution. Et étant protégé par les États-Unis, donc, il a pu se tourner essentiellement vers son économie. La puissance industrielle est donc le fait de FTN japonaises qui se sont reconstruites après 1945. Dans les années 1950, s'est produit une première phase, celle où le Japon a développé son industrie textile, son horlogerie, les cycles, les motos, avec des marques que vous connaissez tous, comme Yamaha ou Honda. Dans les années 1960, le pays s'est tourné vers la sidérurgie, les chantiers navals, l'automobile, la pétrochimie, avec le début des entreprises mondialement connues que sont actuellement Toyota ou Nissan. Les industries de main-d'œuvre japonaises ont dès ce moment, c'est-à-dire dès les années 70, été délocalisées en Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan. Dans les années 80, le Japon donne la priorité aux industries de consommation à haute valeur ajoutée, comme l'électronique, la photographie. Vous connaissez tous Sony, JVC et d'autres marques connues japonaises. Et il développe aussi l'automobile avec le Toyota, qui a donc inventé aussi ce qu'on appelle le toyotisme, c'est-à-dire le fait que les salariés japonais sont garants de la qualité à chaque étape de construction et donc peuvent donner leur avis pour améliorer le système. Depuis les années 1990-2000, le Japon s'est tourné vers la recherche. Et sa recherche est impressionnante à l'heure actuelle avec un budget de 3% du PIB japonais et la formation de 400 000 ingénieurs par an. Le Japon est donc leader dans la robotique, dans l'automobile, dans les hautes technologies et dans toutes les sciences exactes ou technologiques qui œuvrent au progrès industriel mondial. Suivent à côté du Japon ce qu'on a appelé les quatre petits dragons. Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Taïwan. Je rappelle qu'Hong Kong était une colonie britannique jusqu'à ce que les Anglais rendent Hong Kong aux Chinois. Ces pays n'étaient pas développés ni démocratiquement ni économiquement il y a 40 ans. Ils se sont servis du modèle japonais, puisqu'une partie de leur développement, pardonnez-moi, dépendait des investissements du Japon. La phase 1, la même que en fait le Japon, d'abord ils ont développé le textile, puis les cycles, puis l'horlogerie, puis la photographie. Dans une phase 2, ils se sont tournés soit vers l'industrie lourde, ce qui était le cas par exemple de la Corée du Sud, soit vers des petites pièces, ce qui était plus le cas de Hong Kong, soit du côté de la pétrochimie, ce qui était le cas par exemple de Singapour. Et dans une phase 3, ils se sont tous tournés vers des produits de haute valeur ajoutée, plus technologique, et c'est ce qui a donné l'électronique avec OLG, le coréen, du Sud, bien sûr, l'informatique avec Acer, le taïwanais, l'automobile avec Hyundai, les banques avec Hong Kong, Singapour, et les places financières. Les pays émergents se sont développés, eux, grâce aux délocalisations des pays riches et au transfert de technologies et de modes de production que cela a produit dans ces pays. Je vais donner comme exemple celui de la Chine populaire dans les années 80. Dans les années 80, quand même moi j'étais encore lycéen et que je passais le bac comme vous, 1986, la Chine, on l'étudiait comme un pays du tiers-monde. Et ce pays du tiers-monde-là avait un développement qui avait été compromis par les idées de Mao, le grand bond en avant, la révolution culturelle, bref. Quand Deng Xiaoping prend définitivement le pouvoir en 1979, il fixe les modernités essentielles pour le développement économique et social de son pays. Le premier, c'est un développement industriel par des zones économiques spéciales, exemple Shenzhen autour de Hong Kong, où la main-d'œuvre venant des campagnes était très bon marché, coûtait 10 fois moins cher qu'à Hong Kong en 1970, travaillait 16 heures par jour, 6 jours sur 7, sans droit de grève, ni charge sociale. Donc ce sont des économies ce sont les économies des Chinois, par exemple, qui forment la sécurité sociale des Chinois. Donc, ce qu'ils ont en banque, en fait, ça leur permet de payer la pharmacie, une hospitalisation, voilà. Donc, toutes les entreprises ont été bien sûr attirées par ces zones économiques spéciales. Les premières, bien sûr, les japonaises, les sud-coréennes, puisqu'elles étaient juste à côté. Puis, tout de suite, les américaines, les européennes aussi ont été attirées par cet Eldorado économique. Où les bénéfices sont plus importants et les charges sociales quasi nulles. Donc nous pouvons faire la liste des entreprises, Apple, Samsung, Airbus, Citroën, des tas d'entreprises se sont installées là-bas, pas obligatoirement pour réexporter vers la France, qui n'est pas, par exemple, pour les industries Citroën, c'était pas pour réexporter les voitures vers le continent européen, ça coûte trop cher, mais pour conquérir des marchés. À chaque fois, d'ailleurs, la Chine a accepté ce type de délocalisation en échange de transfert de technologie. Attention, il n'y a pas de revendication salariale possible chez les ouvriers chinois, car c'est une dictature, ne l'oublions pas. Et même le comportement social est évalué hein, dans la rue ou dans l'entreprise. Le nationalisme a pris le pas sur le communisme et la promesse d'un développement social pour tous pour le 21e siècle empêche toute revendication sociale et salariale. Les salaires et le niveau de vie ont cependant augmenté en Chine. Il ne faut pas non plus trop critiquer le développement chinois. Donc les succès économiques sont nombreux, comme les marques de FTN chinoises, par exemple, Huawei. Il y a presque autant de FTN chinoises, hein, 119, qu'américaines, 124. Alibaba, Huawei hein, font concurrence à leurs homologues américains, que sont Amazon et Apple. Et c'est ainsi que la Chine est devenue aussi par l'exportation de ses jeunes étudiants vers les grandes universités européennes, américaines et japonaises. Eh bien, ces jeunes étudiants sont revenus au pays, plus ou moins obligés pour en fait faire en sorte eh bien que la Chine soit aussi un pays développé au point de vue de sa recherche. À ceci, il faut rajouter, bien sûr, comme pays émergents, ce qu'on appelle les tigres asiatiques, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, qui s'attachent au développement des deux premiers cercles que sont l'espace japonais, coréen, taïwanais et singapourien, et l'espace chinois. L'Inde, quant à elle, a fermé ses portes aux produits chinois pour aider au décollage de sa propre industrie. Elle a quelques secteurs de pointe, notamment le marché des logiciels, où elle représente 25% de ce marché au niveau mondial. C'est aussi c'est important de le dire aujourd'hui, hein, c'est le premier fabricant de produits génériques au monde. Hein. Elle mise sur l'intelligence et forme aussi des ingénieurs que l'on retrouve dans les pays riches, d'autant plus qu'ils sont parfaitement anglophone. L'Inde a aussi des FTN, hein, comme n'oublions pas Tata, qui a racheté Jaguar et Land Rover à l'ancienne puissance coloniale britannique. Le développement des pays de la région repose sur le commerce intra-asiatique pour 54% des exportations. C'est-à-dire que une grande partie du développement asiatique dépend en fait du développement de l'Asie. L'autre partie dépend donc de la persistance du développement en Europe et aux États-Unis, puisque c'est là que se trouve le premier marché d'exportation des produits asiatiques. La Chine, dans cette condition, joue un rôle pivot depuis 30 ans, soit par les délocalisations des FTN japonaises et coréennes et taïwanaises vers des espaces de zones économiques spéciales chinoises, soit par les investissements chinois vers les pays du sud-est asiatique ou de l'Asie. De là l'importance aussi de la diaspora chinoise qui détiendrait, selon certaines informations, 75% des capitalisations boursières indonésiennes. La Chine est devenue le premier pays importateur de produits japonais et coréens du Sud. Quant à l'ASEAN, l'Association des pays du sud-est asiatique, créé à l'époque par les États-Unis pour lutter contre le communisme, eh bien, il devient un espace de réunion économique qui a été agrandi à 3, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'ASEAN plus 3, l'ASEAN plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Seulement attention à ces réunions, hein, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Il y a une compétition entre ces puissances et la puissance chinoise fait peur à ses voisins. En effet, l'aide chinoise ou les investissements chinois s'accompagnent souvent d'une perte de souveraineté sur l'espace investi. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Sri Lanka avec le port de Colombo. Le Sri Lanka était très pauvre après la guerre fratricide qui a opposé les Tamouls au reste du gouvernement, au gouvernement du Sri Lanka. Et donc, le Sri Lanka a eu du mal à développer son port. Et la Chine est arrivée avec « Bonjour, bonjour, nous arrivons. Est-ce que vous avez besoin de grues? Est-ce que vous avez besoin d'une polarisation de votre port? Oui, oui, on en a besoin pour notre développement. » Et les Chinois ont donc payé le port en disant, ben voilà, puisqu'on paye, puisqu'on construit, est-ce qu'on pourrait pas en avoir l'usufruit? Et le Sri Lanka a dit, oui, oui, vous pouvez en avoir l'usufruit, en échange, bien sûr, de subsides. Et quand il y a eu une crise, il y a 2 ans, eh bien, le Sri Lanka s'est retrouvé sans être en possession pleine et entière de son port. Pourquoi ces ports sont importants pour la Chine? Parce que la Chine a un projet qu'a lancé Xi Jinping il y a quelques années, c'est celui des routes de la soie, qui n'est pas seulement terrestre, comme on voudrait bien faire le croire, mais aussi maritime, c'est-à-dire un chapelet d'îles, de ports, qui permettrait donc à la Chine d'avoir la maîtrise de l'océan Indien jusqu'à son point méditerranéen, par exemple le port du Pirée ou les ports italiens. Donc, et ce type de route de la soie ou de politique économique et chinoise, eh bien, apparaît pour certains comme une remise en cause de leur souveraineté nationale, ce qui pour une région qui a été quand même dominée par les puissances coloniales britanniques, françaises et des Pays-Bas ou du Portugal, sonne mal 40 ans ou 50 ans après la décolonisation. Ces tensions entraînent les pays asiatiques à s'entendre, mais aussi à chercher d'autres alliés, d'autres investisseurs, ou à renommer avec d'autres pays. C'est le cas, par exemple, pour l'Inde avec l'Union européenne ou les États-Unis, le Vietnam avec les États-Unis depuis Obama. Mais l'enjeu est de faire vivre et de prospérer la population asiatique, soit 55% de l'humanité, c'est-à-dire des 8 milliards d'humains, tout en garantissant à cet espace et à ses habitants le développement environnemental durable et un développement économique et social. Donc je vous retrouverai demain pour répondre de cette question du développement démographique et donc économique et social de cette région. Au revoir et à demain.